RFI, soyez les bienvenus, il est 15h à Paris, 14h, temps universel.
Margot Ratézic.
Emmanuel Macron rappelle son opposition à l'accord signé entre l'Union européenne et le Mercosur. Au Salon de l'agriculture à Paris, le chef de l'État a déclaré que nos agriculteurs ne peuvent pas être la variable d'ajustement du pouvoir d'achat et des accords commerciaux. Malgré le rejet de la population et les revers électoraux, le Parti des Verts en Allemagne bat des records d'adhésion alors que demain se tiendront les élections fédérales dans le pays. Nous irons à Istanbul, en Turquie, où le très populaire maire de la ville est à nouveau dans le viseur de la justice. Et enfin, Manuel Valls chahuté en Nouvelle-Calédonie par des manifestants loyalistes. Nous retrouverons notre correspondante à Nouméa. Pas d'insultes ni de bousculades cette année au Salon de l'agriculture à Paris, mais les revendications sont toujours très nombreuses. Nos agriculteurs ne peuvent pas être la variable d'ajustement du pouvoir d'achat et des accords commerciaux, a déclaré Emmanuel Macron sur place. Le président français est attendu au tournant, notamment sur la question de l'accord entre l'UE et le Mercosur, accord pour lequel le chef de l'État a rappelé son opposition.
Dans la mesure où il n'y a pas ce qu'on appelle les clauses miroirs, qui en fait protège de la concurrence déloyale, et ce qu'on appelle les clauses de sauvegarde qui permettent, quand un marché est déstabilisé, de le stopper, on ne l'a pas dans ce texte. Donc c'est un mauvais texte tel qu'il a été signé, et donc on fera tout pour qu'il ne suive pas son chemin, pour protéger cette souveraineté alimentaire française et européenne. On est à un moment de géopolitique extrêmement tendu. Demain, rien ne nous dit que l'alimentation ne deviendra pas une arme. Et donc, notre responsabilité, c'est de produire sur notre sol ce qui nous permet de nous nourrir et de nourrir nos enfants. C'est ce à quoi nous travaillons. On travaille à ce qu'il n'y ait pas de scission de l'accord, on travaille à ce qu'il y ait une minorité de blocage et à convaincre tous nos partenaires, parce que je pense que nos arguments sont les mêmes dans tous les pays d'Europe, qui font en effet défendre cette capacité à produire européenne.
Voilà, vous venez d'entendre Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture au micro de Diego Tenorio avec Valérie Gasse. Et le président français est attendu à Washington ce lundi. Emmanuel Macron entend rappeler à son homologue Donald Trump qu'entre alliés, je cite, « on ne peut pas faire souffrir l'autre avec des tarifs douaniers ». En Allemagne, J-1 avant les élections législatives anticipées. Ce dimanche, ce sont 60 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes pour le renouvellement des 630 sièges du Bundestag. Victoire attendue du chrétien-démocrate Friedrich Merz. Face à lui, Olaf Scholz, le chancelier sortant. Les Verts, eux, sont encore au gouvernement avec les sociaux-démocrates de Scholz. Mais ils ont dû affronter quelques obstacles ces derniers mois. Les écologistes allemands sont en effet victime d'un fort rejet d'une partie de la population et de la classe politique. Ils ont par ailleurs subi plusieurs revers électoraux. En revanche, ils battent des records d'adhésion, car nombreux sont les citoyens qui s'investissent dans le parti, selon eux injustement critiqués. C'est l'avis de Mona dans la Roure, rencontrée par notre correspondant Pascal Thibault.
C'est justement parce que le parti a été attaqué de partout que je me suis dit il faut aller dans ce parti-là, parce qu'elle a été attaquée à tort. Il y a des erreurs qui ont été faites, mais globalement c'est la bonne direction. C'est le seul parti qui reconnaît vraiment qu'il faut faire quelque chose pour qu'on ait encore dans quelques années une terre sur laquelle on peut vivre. Honnêtement, je ne croyais pas qu'on aurait pu faire mieux après le désastre de la Ampel.
De la coalition feu tricolore.
Je pense que c'est toujours bien de faire partie d'un gouvernement pour pouvoir vraiment changer quelque chose. D'autre côté, les positions de la CDU et des Verts sont quand même très très éloignées. Donc je ne sais pas si on serait capable de former une coalition sans perdre beaucoup de nos idées. Avant de perdre beaucoup de nos idées, c'est peut-être mieux d'aller en opposition.
Une militante écologiste allemande au micro de Pascal Thibault. Et pour mieux comprendre tous les enjeux liés à ce scrutin, rendez-vous sur le site et l'application de RFI. Ce samedi, notre correspondant à Berlin nous dresse un état des lieux du pays. À lire donc sur www.rfi.fr. Le sixième otage libéré par le Hamas vient d'arriver sur le sol israélien. Plusieurs libérations ont donc eu lieu aujourd'hui. Elles sont plus complexes que les précédentes car elles se sont déroulées en trois temps et en trois lieux. 602 détenus palestiniens doivent être relâchés par Israël en contrepartie. Et on a appris que le nouveau corps rendu vendredi par le Hamas est bien celui de l'otage Shiri Bibas. La famille confirme la restitution de la dépouille de cette mère de famille de 33 3 ans avait donné lieu à une confusion. Le Hamas évoquait hier une possible erreur sur le corps initialement remis à ses proches. RFI, il est 17h à Istanbul, en Turquie, où le très populaire maire de la ville, Ekrem İmamoğlu, est à nouveau dans le viseur de la justice. Il est accusé d'avoir falsifié son diplôme de licence en sciences administratives. La municipalité a publié un exemplaire du diplôme pour faire taire la polémique, mais le procureur a tout de même ouvert une enquête. À Ankara, la correspondance de Céline Pierre Magnani.
Ekrem İmamoğlu est à nouveau convoqué devant la justice le 26 février et devra répondre aux accusations de falsification de son diplôme universitaire. Le très populaire maire d'Istanbul fait déjà l'objet de plusieurs procédures judiciaires qui pourraient aboutir à des peines d'emprisonnement et d'interdiction de la vie politique. L'annonce de l'enquête intervient alors que l'édile a déposé cette semaine sa candidature pour les primaires de son parti qui se tiendront en mars. Car si la justice s'acharne sur cette personnalité très appréciée dans les rangs de l'opposition, c'est qu'il fait de l'ombre à Recep Tayyip Erdogan. Le président quasi omnipotent compte bien se représenter pour briguer un quatrième mandat en 2028. Cette enquête alourdit un peu plus une atmosphère politique déjà tendue. Des arrestations tous azimuts ont eu lieu ces dernières semaines contre des maires de l'opposition, des représentants du patronat et des militants politiques. Samedi 22 février, le même procureur a lancé une enquête contre le barreau d'Istanbul pour propagande terroriste et diffusion de fausses informations. Céline Pierre Magnani, Ankara, RFI.
Les États-Unis proposent à l'ONU une résolution pour une fin rapide du conflit russo-ukrainien, un projet qui ne fait pas mention du respect de l'intégrité territoriale ukrainienne. Le président ukrainien a quant à lui fait savoir qu'il n'était pas prêt à signer un accord sur les minerais avec les États-Unis, pas dans sa forme actuelle en tout cas, selon une source proche du dossier. Ces minerais stratégiques sont au cœur des négociations avec Donald Trump, qui espère obtenir un accès préférentiel à ces ressources ukrainiennes. Donald Trump qui poursuit sa série de purges au sein du Pentagone. Dernier mouvement en date et le plus significatif, sans doute, c'est le remplacement du chef d'état-major de l'armée américaine. Le général Charles Brown laissera sa place à Dan Kane, un pilote qualifié d'expert en sécurité nationale par le président américain. Manuel Valls en visite sur l'île d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. Le ministre français des Outre-mer doit saluer la mémoire des victimes de l'assaut de la grotte en 1988. Mais quelques heures plus tôt, c'est sous les huées qu'il a été accueilli sur l'archipel, chahuté par des loyalistes qui s'opposent à l'indépendance. Donc, Manuel Valls doit rester une semaine sur place pour apaiser par le dialogue, selon ses mots. La Calédonie où le climat est toujours très tendu après les violentes émeutes l'année dernière. À Nouméa, la correspondance de Charlotte Menvy.
C'est le nouveau slogan des partisans de la Calédonie française. No pasaran, ils ne passeront pas. Une référence aux origines catalanes du ministre des Outre-mer, accusé par les non-indépendantistes de vouloir lâcher l'archipel. Alors, sitôt la cérémonie terminée, Manuel Valls tente de nouer le dialogue.
Vive la France ! Vive la Nouvelle-Calédonie !
Pourquoi avez-vous peur ?
Restez français !
Mais pourquoi vous ne resteriez pas français ? Il faut pas croire tout ce qu'on vous dit.
Ce qui voit Manuel Valls tant d'hostilité, ce sont ses propos sur une souveraineté partagée entre la France et l'archipel, un terme qui est pourtant dans l'accord de Nouméa signé en 98, mais dont ses loyalistes ne veulent plus.
On a eu trois référendums où on a dit non à l'indépendance, alors on aimerait bien qu'on nous prenne en compte.
Le problème, c'est que le dernier référendum a été boycotté par les indépendantistes. Seuls 47% des Calédoniens y ont participé. Et l'insurrection de mai dernier sur fond de réforme électorale imposée par l'État l'a montré. Faire sans les indépendantistes, c'est risquer que l'archipel ne sombre à nouveau dans la violence. Il faudra donc trouver un équilibre. C'est tout l'enjeu de cette visite qui doit permettre d'ouvrir des négociations sur le futur statut du territoire. Charlotte Menvy, Nouméa, RFI.
Gisèle Pélicot, icône féministe à l'échelle mondiale. Elle fait partie des femmes de l'année 2025 distinguées par le magazine américain Time. Le procès des viols de Mazan est devenu emblématique des questions de violences sexistes et sexuelles en France comme à l'étranger. RFI, il est bientôt 15h10 à Paris, 14h10, temps universel. C'est la fin de ce journal, mais toute l'actu est à retrouver sur notre site www.rfi.fr. Et tout de suite, je vous laisse avec La Marche du Monde.